Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 14h en temps universel, 15h à Paris.
Florent Guignard.
Bonjour à la une de ce journal. De multiples condamnations après des incidents hier à Amsterdam. En marge d'un match de football, le Premier ministre, le président israélien a dénoncé un pogrom antisémite. 5 supporters de foot israéliens ont été hospitalisés. Un premier avion vient d'atterrir avec à bord des supporters rapatriés en Israël. Également dans l'actualité, le sommet de l'Union européenne à Budapest en Hongrie pour que l'Europe retrouve de la compétitivité économique. À suivre aussi un reportage en Espagne après les inondations meurtrières. On distribue à la population sinistrée des médicaments sur un coin de trottoir. On parle enfin d'un record de France, le record des exportations d'électricité. Ça faisait 2 décennies que ce n'était pas arrivé. Un avion vient donc d'atterrir à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv en provenance d'Amsterdam avec à bord des Israéliens évacués après les incidents d'hier en marge d'un match de foot entre l'Ajax d'Amsterdam et le Maccabi Haïfa. 5 supporters israéliens blessés ont été hospitalisés alors que la police a annoncé une 60aine d'arrestations. Des supporters israéliens agressés par de jeunes pro-palestiniens. Alors que les premiers incidents signalés remontent en fait à mercredi, quand des supporters israéliens ont arraché un drapeau palestinien. Alors après la diffusion des vidéos des scènes d'agression, hier le président israélien a dénoncé un pogrom antisémite et un peu partout, Pierre-Olivier, les condamnations se multiplient.
Oui, et d'abord celle du Premier ministre des Pays-Bas qui dénonce sur X des attaques antisémites inacceptables contre des Israéliens et promet que les auteurs seront recherchés et poursuivis. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est dit quant à elle indignée par ces attaques ignobles. Réaction aussi de l'ONU qui rappelle que personne ne devrait être soumis à la violence sur la base de son origine nationale ou religieuse. En France, Emmanuel Macron condamne des violences qui rappellent les heures les plus indignes de l'histoire, quand le ministre chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, parle, lui, d'une chasse aux Juifs sur le sol européen et appelle à ne faire preuve d'aucune faiblesse face à l'antisémitisme. Déclaration similaire tenue par une majorité de la classe politique française, y compris à gauche. Enfin, le ministre de l'Intérieur a réagi à sa manière, lui aussi, en assurant que le match France-Israël qui doit se tenir jeudi 14 novembre prochain au Stade de France aura bien lieu et en public. La France ne recule pas car cela reviendrait à abdiquer face à l'antisémitisme, a dit Bruno Retailleau-Florent.
Pierre Olivier du service international de RFI dans la bande de Gaza. Une information, un chiffre publié aujourd'hui par le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies. 70% des victimes de la guerre à Gaza sont des femmes et des enfants. Et puis au Liban, on signale que l'armée israélienne a détruit les maisons de 3 villages situés dans le sud Liban, près de la frontière avec Israël. Le Premier ministre hongrois fait une déclaration dissonante en marge d'un sommet européen qui se tenait aujourd'hui chez lui à Budapest, en Hongrie. Il a appelé les 27 pays de l'Union européenne à passer de la guerre à la paix en Ukraine. La situation, dit-il, sur le champ de bataille est évidente. C'est une défaite militaire pour l'Ukraine. Alors, ce sommet informel des 27 pays de l'Union européenne, organisé par la présidence tournante, présidence hongroise pour ces 6 mois, ce sommet se penche par ailleurs sur le rapport Draghi, du nom de l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. pour favoriser le retour de la compétitivité économique de l'Europe. Mario Draghi, à l'ouverture de ce sommet, a d'ailleurs dit que l'urgence des réformes économiques dans l'Union européenne était plus grande depuis l'élection de Donald Trump, président des États-Unis. Alors, parmi les très nombreuses réaction à cette élection de Donald Trump, on va aller en Inde. Narendra Modi, le Premier ministre indien, s'en est fortement réjoui. Il est vrai que Donald Trump et lui partagent la même ligne politique nationaliste et la même image d'homme providentiel, correspondance de Combastin.
C'est un ami que Narendra Modi a félicité après la réélection de Donald Trump, vantant les mérites de son premier mandat. Des compliments qui sont partagés par Donald Trump, qui juge que le monde entier aime Narendra Modi. Pour les partisans du parti nationaliste hindou au pouvoir en Inde, la victoire de Trump sonne comme une reconnaissance politique. De la proximité avec Israël au refus de condamner Vladimir Poutine, les deux dirigeants partagent une vision du monde. Les sorties de Donald Trump contre la Chine, le grand rival de l'Inde, y participent. Les États-Unis sont le premier partenaire commercial de l'Inde et une destination de rêve pour sa diaspora. Cependant, la fin de mandat de Joe Biden a été tendue alors que New Delhi a été accusé de tentative d'assassinat envers des indépendantistes sikhs à New York. Au-delà de ces affinités entre dirigeants, certains politiques se demandent si l'Inde va vraiment bénéficier de la présidence Trump. Son parti pris anti-étranger, protectionniste et son caractère imprévisible sont autant d'inquiétudes. Combastin, Bangalore, RFI.
RFI, les 15h07 à Paris et à Madrid, en Espagne, où il n'a jamais autant plu. Ce mois d'octobre, les inondations dans la région de Valence, je vous le rappelle, ont fait au moins 219 morts. Il y a les morts et puis les sinistrés avec, en ce moment même, encore des distributions de nourriture, d'eau et même de médicaments sur le trottoir. Reportage de Pauline Glaise.
Devant le camion de la Croix-Rouge, une tente et quelques sacs de médicaments font office de pharmacie. En début de semaine, Enrique Fosser tente sa chance.
Je suis venu chercher de la nourriture et je les ai vus. Depuis la crue, je n'ai pas de médicaments. J'ai appelé à l'assistance sanitaire, mais personne ne me répond.
Diego Fernandez, médecin de la Croix-Rouge, fouille dans ses sacs plastiques à la recherche des boîtes demandées.
Principalement de l'ibuprofène et du paracétamol, quelques médicaments plus spécifiques comme des antihypertenseurs, des médicaments pour les migraines, des anti-inflammatoires et des médicaments pour les enfants.
Des médicaments pour pallier l'urgence.
Les pharmacies sont bloquées parce qu'elles n'ont plus de réseau pour lire les cartes de santé et beaucoup de médicaments ont été perdus.
La Croix-Rouge propose aussi des soins de base.
Soigner les blessures, certains traumatismes et donc la distribution de médicaments pour décongestionner un peu le système de santé publique et qu'ils puissent se consacrer à des choses plus graves.
L'un des médicaments demandés par Enrique Fosser n'est pas disponible. Il lui faut trouver une autre solution. Il décline un inhalateur. Il lui en reste et sait que d'autres pourraient en avoir besoin. Pauline Glaise, de retour de Valence, RFI.
La France qui gagne dans ce journal et la France qui exporte de l'électricité à un niveau record depuis 20 ans. Même si Nathanaël Vitran, le prix de l'électricité reste très élevé.
Oui, la France s'attend à exporter cette année 90 TWh d'électricité, 90 milliards de kWh. Le record de 77 TWh établi en 2002 est déjà quasiment battu avant même l'entrée dans l'hiver. Deux explications. D'abord, la production nucléaire française est repartie après deux années, 2022 et 2023, pendant lesquelles la moitié des réacteurs étaient à l'arrêt pour des problèmes de maintenance. Ensuite, les Français ont moins consommé cette année. Les réflexes d'économie acquis dans la douleur pendant la crise énergétique ont perduré. Enfin, les difficultés de l'industrie entrent aussi en jeu. Une usine qui ferme, c'est une usine qui ne consomme pas. Pour autant, l'électricité reste très chère en France, y compris pour les entreprises. C'est vrai, la situation s'améliore par rapport à 2023. D'après l'INSEE, pour les clients industriels, la facture devrait être 20% inférieure cette année par rapport à l'année dernière. Mais même après déduction des aides de l'État, l'électricité reste 84% plus cher aujourd'hui qu'en 2021.
Nathanaël Vitran, 15h10 à Paris, c'est la fin de ce journal dans un instant. Sur RFI, c'est pas du vent.